Vous écoutez, on lit pour vous.
Françoise Robert, psychologue clinicienne. Un diagnostic n'est pas un pronostic de vie. Des propos recueillis par Guillemette de Préval, paru le 14 mai 2025 dans Ombres et Lumières. Françoise Robert est psychologue clinicienne au service génétique du Centre de référence Anomalies du développement des hospices civils de Lyon. Elle explicite en quoi, au cours de l'annonce d'un diagnostic, elle prend soin de respecter des étapes clés. Vous assistez à de nombreuses annonces de diagnostic. Qu'est-ce qui se joue dans un premier rendez-vous de génétique? Le généticien commence toujours par l'anamnèse, c'est-à-dire l'histoire médicale du patient. C'est l'occasion de comprendre quelles sont les attentes parentales. Elles peuvent être fortes. Certains projettent quasiment une guérison ou un miracle. Or, nous ne sommes pas sûrs de trouver la cause génétique des symptômes. Sur l'ensemble de nos patients, nous butons encore sur 40% d'errance de diagnostic. Au contraire, certains viennent sans attente particulière, parce qu'on nous a dit d'aller chez vous. Le but est avant tout d'essayer de répondre aux questions des parents, pas de prescrire un examen génétique immédiatement et à tout prix. Si les parents ne sont pas prêts à accueillir le diagnostic, que faites-vous? Des dénis sont possibles. Le rendez-vous peut être un énorme coup de massue ou avoir peu d'effet. Je me souviens d'un couple dont l'enfant était atteint de nanisme. Cela n'avait pas été observé in utero, ni juste après la naissance. Lors de la visite du premier mois, leur pédiatre a tout de suite vu que leur bébé était achondroplase, le terme scientifique pour le nanisme. Ce médecin a eu l'intelligence de ne pas le dire d'emblée aux parents. C'était trop tôt. Il leur a simplement dit « Votre fille est très petite, il faudrait que vous consultiez en génétique ». Inconsciemment, le fait d'avoir un autre rendez-vous, de passer une radio et de rencontrer d'autres spécialistes les préparait davantage. C'est au deuxième rendez-vous de génétique que le handicap leur a été annoncé. Le généticien a alors parlé de petite taille sévère. Le père a reformulé « Voulez-vous dire que notre fille va être naine? » J'ai pris la parole, car je voyais que le médecin était gêné, et lui ai répondu que oui, il avait bien compris la situation. C'est important de préciser les termes et de ne pas tourner autour du pot. C'est un exercice d'équilibriste. Il s'agit d'être clair sans se précipiter. Nous nous sommes permis de prendre ce temps, car il n'y avait pas d'urgence vitale pour l'enfant. Quelle serait alors l'annonce idéale? D'abord, je pense à ce qu'il faut éviter à tout prix, les annonces rapides par téléphone. Ensuite, il est important de recevoir les deux parents en même temps. Sinon, on charge le parent de l'annoncer à sa conjointe. Si les parents sont divorcés, on les reçoit séparément. Les parents veulent souvent savoir ce que leur enfant va devenir plus tard, mais il faut se garder des discours délétères comme « Votre enfant ne pourra jamais parler ». Mieux vaut dire, dans le cas de cette pathologie, le langage est touché. Un certain nombre d'enfants sont non-verbaux. Inutile d'ajouter de la noirceur au tableau, alors que chaque enfant a un développement unique. Il faut aussi accueillir l'émotion des parents, ne pas avoir peur de laisser des silences. Aux côtés du généticien, qui a parfois un langage très scientifique, je n'hésite pas à reformuler. Cela change tout de dire, face à leur culpabilité, au lieu de dire d'emblée « Vous n'y êtes pour rien », dénoncez plutôt « Je comprends que vous vous sentiez responsable, mais objectivement, vous n'y êtes pour rien », ce qui laisse la place à leur ressenti. Enfin, l'annonce diagnostique n'est qu'une étape dans le parcours de soins de l'enfant. Il faut s'assurer que sa prise en charge est adaptée à sa pathologie et, le cas échéant, orienter les parents vers un réseau de professionnels spécialisés. Avec les progrès de la science, on diagnostique plus facilement des maladies. Quelles sont les conséquences? Grâce au séquençage du génome, notamment, les recherches vont beaucoup plus loin. Mais disons qu'aujourd'hui, on trouve plus facilement des résultats qui n'ont pas de nom de maladie. Lorsqu'un généticien cite, tout heureux de sa découverte, une série de chiffres et de lettres, les parents peuvent être démunis, voire déçus. D'autant qu'il s'agit souvent de maladies très rares, sans documentation ou association organisée. Même si les généticiens filtrent les données pour tenter de répondre à la question diagnostique, ils peuvent trouver des informations qu'on ne cherchait pas. Par exemple, une prédisposition au cancer du sein. Depuis la loi de bioéthique de 2021, le praticien est obligé de donner ses résultats aux patients s'il y a consenti au préalable. S'il est mineur, ses parents ou tuteurs décident pour lui. Mais cela peut être d'attendre pendant des années que peut-être un jour le cancer se déclare ou non. Comment accompagnez-vous les parents en cas de pathologie héréditaire? C'est vraiment une double peine pour eux. Après le choc de l'annonce, ils éprouvent souvent une forte culpabilité et deviennent, de surcroît, des oiseaux de mauvais augure, car c'est un devoir légal d'informer leurs apparentés si une hérédité familiale est mise en évidence. Je pense au syndrome du X fragile, qui se transmet par les femmes et se répercute chez les garçons. On travaille avec ses parents si les relations familiales sont compliquées. Comment expliquez-vous le diagnostic à l'enfant concerné? Je prends d'abord un temps avec les parents seuls. Ils ont des questions parfois délicates. L'enfant n'a pas à les entendre. Mais ensuite, c'est bien que l'enfant soit là pour lui expliquer clairement ce qu'il se passe, car il ressent l'anxiété de ses parents. Il peut dessiner, jouer en même temps. J'utilise souvent l'image de la recette de cuisine pour l'expliquer aux enfants. Avec des ingrédients supplémentaires ou manquants, la recette change et crée un gâteau différent. J'aime discuter seul avec l'enfant devenu plus grand. C'est mieux d'attendre ses questions, sans trop les devancer. Je me souviens d'un enfant atteint de nanisme qui me racontait les moqueries subies. Il exprimait qu'il avait envie de mourir. C'était important qu'il me le dépose, car il n'aurait peut-être pas osé le dire à ses parents, par souci de les préserver. C'était Françoise Robert, psychologue clinicienne. Un diagnostic n'est pas un pronostic de vie. Des propos recueillis par Guillemette de Préval, paru le 14 mai 2025 dans Ombres et Lumières.
Pourquoi faut-il consommer plus de protéines en vieillissant? Un texte de Clémence Desjardins, paru le 6 mai 2025 dans l'actualité. Certaines personnes âgées peinent à consommer suffisamment de protéines au quotidien, même si elles devraient en manger davantage que les adultes plus jeunes. Voici pourquoi et comment remédier à la situation. Les protéines sont essentielles au bon fonctionnement du corps, particulièrement pour la santé des muscles. Or, il peut être plus difficile de combler ces besoins en protéines en vieillissant. Les personnes de 71 ans et plus sont, en effet, les moins bien nourries au Canada, selon la Fondation québécoise de gériatrie sociale, AGE. Le vieillissement est associé à une diminution de l'appétit et de la perception des saveurs, et les problèmes de mastication et de digestion sont plus communs. Certaines personnes âgées ont également des limitations fonctionnelles et dépendent de leurs proches pour faire leurs achats, cuisiner ou s'alimenter. Des difficultés financières peuvent aussi compromettre leur capacité à bien se nourrir. Tout cela réduit de facto leurs apports en protéines. Quelle quantité de protéines est recommandée pour les personnes âgées? Selon Santé Canada, l'apport nutritionnel de référence pour les adultes, 19 ans et plus, est de 0,8 g de protéines pour chaque kilogramme de poids corporel, grammes sur kilogramme, ce qui équivaut à 56 g par jour pour une personne de 70 kg, 154 livres. Or, pour les personnes de 65 ans et plus en bonne santé, il est généralement recommandé d'en consommer autour de 1,2 g sur kilogramme, c'est-à-dire 84 g par jour pour cette même personne de 70 kg. Cette recommandation a pour principal objectif de prévenir la perte importante de masse musculaire associée à l'âge, la sarcopénie, un état lié à un risque augmenté d'infection, de blessures et de chutes, en plus d'une guérison plus longue. En vieillissant, les muscles ont besoin de plus en plus de protéines pour être en mesure de les utiliser, un peu comme si une certaine proportion de ce qui est ingéré était systématiquement gaspillé. C'est ce qu'on appelle la résistance anabolique. Il est donc essentiel de consommer une quantité suffisante de protéines quotidiennement afin de s'assurer d'atteindre le seuil à partir duquel les muscles peuvent pleinement en bénéficier. Bon à savoir, l'activité physique atténue le phénomène de résistance anabolique et permet aux muscles d'utiliser plus facilement les protéines, donc de mieux les rentabiliser. C'est particulièrement le cas des exercices en résistance qui peuvent être effectués dans des salles de musculation, mais également chez soi, avec le poids du corps, des bandes élastiques ou de petits haltères. Il est toutefois essentiel de consulter un professionnel de la santé, comme un kinésiologue, avant d'entreprendre un tel programme. Quels sont les avantages de répartir les protéines entre les repas de la journée? La plupart des gens, y compris les personnes âgées, consomment peu de protéines au déjeuner, moyennement au dîner et beaucoup au souper. Or, la quantité idéale pour stimuler la synthèse de masse musculaire serait plutôt de 30 g à 45 g par repas, soit la quantité maximale de protéines que le muscle peut stocker et gérer efficacement. Ainsi, il est essentiel de les répartir équitablement entre les différents repas pour en tirer le maximum. Bien que consommer plus de 45 g par repas ne soit pas nuisible aux personnes en bonne santé, il est préférable de reporter la quantité supplémentaire à un autre repas, particulièrement lorsqu'il est difficile de manger suffisamment de nourriture, comme c'est souvent le cas des aînés. Quels aliments devrait-on prioriser? L'idéal est de choisir des protéines animales maigres, volailles, yogourts et laits écrémés ou partiellement écrémés et poissons, par exemple, et de prioriser certaines sources végétales, comme le soya, tel que le recommande le Guide alimentaire canadien. Les aliments d'origine animale, viande, poisson, produits laitiers, œufs, etc., contiennent des protéines complètes, c'est-à-dire qu'elles renferment une proportion d'acides aminés optimale pour stimuler la synthèse musculaire. Cependant, ces aliments peuvent contenir beaucoup de gras saturés, lesquels devraient être consommés avec modération. D'un autre côté, les végétaux, légumineuses, grains céréaliers, noix et graines, en plus des protéines, sont riches en fibres, antioxydants, polyphénols et gras insaturés, des nutriments associés à la santé du cœur. Toutefois, il faut en manger de plus grandes quantités pour satisfaire nos besoins en protéines. Par exemple, pour obtenir 30 g de protéines, il faut consommer 2 tasses de pois chiches, tandis qu'une demi-poitrine de poulet, 100 g, en contient environ la même quantité. Comment accroître la quantité de protéines sans augmenter la taille des portions? Bien qu'augmenter la quantité de viande dans son assiette puisse sembler une approche évidente, ce n'est pas nécessairement réaliste lorsque l'appétit n'est pas au rendez-vous. Il peut être intéressant de remplacer ces 2 ou 3 gros repas par jour par 3 plus petits repas accompagnés de collations à des heures régulières. De plus, certains ingrédients apparemment anodins sont en réalité d'excellentes sources de protéines qui s'ajoutent facilement à vos recettes préférées. Par exemple, le lait en poudre s'intègre bien aux purées de pommes de terre, au potage et aux muffins. Pour une option végétale, la PVT, protéine végétale texturée, peut adopter une texture similaire à la viande hachée dans les sauces à spaghettis et les pâtés chinois. Grâce à son goût neutre, on peut également l'ajouter à certains desserts, comme à des galettes d'avoine. Les suppléments de protéines sont-ils indispensables? De manière générale, il est préférable d'opter pour des aliments entiers qui, par opposition aux suppléments, sont constitués d'un ensemble de nutriments essentiels au maintien d'une bonne santé. Les suppléments de protéines peuvent parfois s'avérer pertinents, comme dans les cas de malnutrition, de maladies graves ou d'un appétit très faible. Dans ces situations, une nutritionniste ou un autre professionnel de la santé peut les recommander. C'était « Pourquoi faut-il consommer plus de protéines en vieillissant ?» un texte de Clémence Desjardins, paru le 6 mai 2025, dans l'Actualité.
Trump a pris la science comme ennemi depuis son retour au pouvoir. Un texte de Charlotte Cosit de l'agence France-Presse paru le 23 avril 2025 dans Le Devoir. Une attaque sans précédent contre la science. Dans la bouche des scientifiques américains, les mêmes mots reviennent en boucle pour qualifier la politique menée par Donald Trump depuis son retour au pouvoir. En l'espace de moins de 100 jours, le républicain a amorcé une profonde refonte du paysage scientifique aux États-Unis, pays phare de la recherche mondiale, ce qui a plongé nombre d'acteurs du milieu dans la sidération et poussé certains d'entre eux à partir. Coupe de milliards de dollars de financement touchant tant la recherche sur le climat que celle sur les traitements anticancéreux, licenciement massif de scientifiques dans les organes fédéraux, menace ouverte à l'encontre des universités, cas dénoncés de censure, suppression de bases de données ou encore mise au ban de certains termes liés au genre et au climat, la liste n'a cessé de s'allonger au fil des semaines. C'est tout simplement colossal, lâche Paul Edwards, directeur d'un programme scientifique à l'Université Stanford. « Je n'ai rien vu de tel en 40 ans de recherche aux États-Unis », assure-t-il à l'AFP. Un constat largement partagé à travers la communauté scientifique et universitaire. Fin mars, plus de 1900 membres de sociétés savantes ont lancé un appel à l'aide. L'entreprise scientifique de la nation est en train d'être décimée, ont-ils dénoncé dans une lettre, enjoignant à leurs compatriotes de se dresser contre cette attaque en règle contre la science. Tout droit sorti du projet 2025. Déjà sous le premier mandat du milliardaire, la communauté scientifique s'était publiquement émue d'une telle offensive, mais de l'avis de tous, ce qui se passe aujourd'hui est bien différent. C'est beaucoup plus large et coordonné, relève Jennifer Jones, directrice du Centre pour la science et la démocratie de l'association Union of Concerned Scientists. Pour elle, cela sort tout droit du projet 2025, établi par un groupe de réflexion ultra-conservateur. Ce document suivi par Donald Trump depuis son retour au pouvoir préconise la restructuration, voire le démantèlement d'institutions scientifiques et universitaires qu'il accuse d'alimenter un alarmisme climatique et un endoctrinement politique. Un projet soutenu par l'entourage du président américain comme son secrétaire à la santé, le vaccino-sceptique Robert Kennedy Jr., qui surfe sur la méfiance croissante des Américains à l'égard des scientifiques, notamment depuis la crise de la COVID-19. Avec pour conséquence un renversement du rôle jusque-là central de l'État dans la production de savoir, analyse Sheila Jasanoff, professeur en sociologie de la science à l'Université Harvard, accusé par Donald Trump d'être un nid de gauchistes radicaux. Une bascule qu'elle impute à une rage contre la science du président, qui a remis en cause à plusieurs reprises le consensus scientifique, notamment sur le climat. Autant de faits rationnels qui s'opposent à la gouvernance charismatique qu'il défend, note-t-elle. Une accusation niée en bloc par la Maison-Blanche. « Nous avons enfin un président qui suit la science », a-t-elle au contraire clamé dans un communiqué. Perte d'une génération entière de jeunes chercheurs. Face à cette situation, un nombre grandissant de chercheurs envisagent de quitter les États-Unis. Une fuite de cerveaux dont d'autres pays espèrent bénéficier en ouvrant les portes de leurs universités. En France, une proposition de loi visant à créer un statut de réfugié scientifique a ainsi été présentée. Certains partiront, mais un grand nombre renonceront à leur carrière, craint Daniel Sandweiss, professeur en sciences du climat à l'Université du Maine, qui met en garde sur la possible perte d'une génération entière de jeunes chercheurs. Ce sont les étudiants les plus prometteurs, les superstars qui commencent à peine à émerger et qui feront les vraies percées, et il va nous en manquer un paquet, regrette-t-il. Des talents sur lesquels comptent également de nombreux secteurs économiques comme celui de l'industrie pharmaceutique pour produire les innovations de demain. À ce risque s'ajoute celui de voir le vide comblé par des pseudo-sciences et des chercheurs totalement discrédités, affirme Jennifer Jones. Une inquiétude accentuée par la nomination de David Geyer par le secrétaire à la santé pour étudier un lien entre vaccin et autisme. Une hypothèse écartée par plusieurs études. Ce chercheur anti-vaccin a été reconnu coupable d'avoir pratiqué la médecine sans diplôme adéquat. À cause du niveau de désinformation et de confusion que ce gouvernement est en train de créer, il faudra des années, voire des générations pour réparer les dommages, prévient Mme Jones. C'était « Trump a pris la science comme ennemi depuis son retour au pouvoir », un texte de Charlotte Cosit de l'agence France Presse paru le 23 avril 2025 dans Le Devoir.
Une mâchoire de Denisova révèle que cette espèce humaine était adaptée à plusieurs climats. Un texte de Bruno Lamollet, paru le 11 avril 2025 dans le magazine Québec Science. Une mâchoire fossilisée confirme que les populations denisoviennes n'occupaient pas seulement des environnements froids, mais aussi des régions tropicales. Un morceau de mâchoire trouvé à Taïwan, appartenant à l'espèce denisovienne, ouvre une nouvelle fenêtre sur l'aire de répartition de ces mystérieux humains disparus. Cette demi-mâchoire a été découverte chez un antiquaire de Taïwan, où elle a abouti, après avoir été remontée par un filet de pêche du fond du détroit de Taïwan en 2008. Son acquéreur, amateur de fossiles, l'a confié au Musée national de sciences naturelles de Taïwan. Mais il aura fallu de longues années avant de la faire parler.
une équipe danoise et taïwanaise a finalement réussi à analyser des protéines qui se conservent mieux que l'ADN, extraites de la mâchoire et montrées qu'elles correspondent parfaitement et uniquement au code génétique des nisoviens. Voilà qui confirme moléculairement la présence des nisoviennes dans le sud-est tropical asiatique. Le peu de fossiles dénisoviens connus provenaient jusqu'ici de régions froides, soit le plateau tibétain et la Sibérie. Cette découverte, publiée dans Science, montre donc que cette espèce, dont les dernières traces remontent à environ 40 000 ans, a su s'adapter au climat montagnard et froid, ainsi qu'aux milieux tropicaux, pour finalement occuper toute l'Asie. Un fait remarquable, puisqu'aucune autre espèce humaine n'a habité de territoire regroupant des environnements si différents, à part Homo sapiens. Notons qu'un grand nombre de scientifiques en étaient déjà convaincus, notamment grâce à une dent retrouvée au Laos et très semblable à une dent dénisovienne récupérée sur le plateau tibétain. Comme elle a été trouvée sur un marché et non dans le sol, la mâchoire de Taïwan est difficile à dater. On estime que son propriétaire, un homme, a vécu quelque part entre moins 40 000 et 190 000 ans. Des fossiles à l'ADN. Les scientifiques connaissent les populations dénisoviennes à la fois très peu et très intimement. Très peu, car on n'a retrouvé que de rares os fossilisés, et très intimement, car on a pu en extraire de l'ADN et séquencer le génome dénisovien. Ces études ont permis de déterminer que les populations dénisoviennes, néandertaliennes et Homo sapiens, avaient un ancêtre commun il y a environ 750 000 ans et qu'elles se sont hybridées entre elles au cours des millénaires. C'était Une mâchoire de Denisova révèle que cette espèce humaine était adaptée à plusieurs climats. Un texte de Bruno Lamollet, paru le 11 avril 2025 dans le magazine Québec Science.